Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer donc la préséance du conseil municipal. Faire un petit point depuis, on ne va pas refaire tout l'été, toutes les dernières activités, mais plutôt la partie rentrée, si vous en êtes d'accord. La rentrée déjà des classes s'est très très bien passée. Les enfants étaient satisfaits de retrouver leur école. Pour ceux qui aiment l'école et ceux qui aiment moins l'école, on leur a mis un peu de musique. Et donc c'était les copains du jazz qui ont accompagné un petit peu cette reprise d'école pour les enfants. En parlant de l'école, donc on rencontre un grand succès à travers le dispositif de la cantine à 1 euro. Il faut le dire, on est quasiment à 100% des enfants de l'école qui mangent à la cantine. Donc heureusement qu'on a élargi la pause méridienne. Et donc ça nous permet de mieux gérer cet aspect-là. Mais bon, c'est quand même un sujet en tout cas à suivre. Et donc du coup, on leur propose plein d'activités que vous pourrez voir dans le communiqué du journal municipal.
Jérémy, je peux juste interpeller. C'est 1 euro pour tout le monde, quels que soient les revenus.
Alors il y a des critères sociaux quand même. La grande majorité sont à 1 euro. Et après, en fonction des critères, mais ça va varier de 1 à 4, 5 euros à peu près. Voilà, c'est le tarif. Mais du coup, en ayant pris ce dispositif, on augmentait la plage de la tarification en euros.
C'est quand pour les retraités, les repas à 1 euro.
Et nous pourrons mettre ça au débat si tu le souhaites. En tout cas, il y avait un projet qu'on avait dû mettre de côté à cause de la Covid. C'était le repas avec des personnes âgées dans la cantine avec les enfants. Et c'est quelque chose qui est mené avec le CSAS. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment bien de pouvoir poursuivre ce type d'activité. Donc, c'est le mercredi. Et également, les enfants ont la possibilité de choisir leur menu une fois par mois. Et donc, ça tourne dans la classe, ils votent, ils font tout un apprentissage autour de ça. Et le but, c'est de les sensibiliser aussi à l'équilibre alimentaire. Il y a le CME aussi, le conseil municipal des enfants. Nous sommes en pleine période électorale chez les enfants à l'école. Nous sommes passés avec la commission du CME rencontrer les enfants CM1, CM2, et donc là, ils préparent leurs éléments.
Il y a beaucoup de candidats.
Alors, je ne sais pas, niveau candidature, est-ce que tu as des infos, Géraldine?
Apparemment, Coralie me disait qu'il y aurait peut-être 14 candidats.
Pire qu'aux Europe.
Pour le CME.
Pour 6 sièges.
Pour 6 sièges.
Oui, mais c'est 6 sièges. Hein.
Voilà. Donc on verra, il n'y a pas toutes les autorisations parentales encore, mais il y a déjà des inscrits, donc c'est parfait.
En tout cas, l'échange, c'était super sympa, quoi. Quand on était dans la salle polyvalente, il y avait plein de questions, c'est vraiment une belle dynamique, en tout cas. Et donc, dans les travaux de l'école, parce que chaque année, on fait quand même un bouquet de travaux de rénovation importants, ce qui est prévu, c'est l'installation des panneaux photovoltaïques, qui sont assez conséquents, parce que c'est 600 mètres carrés de toiture photovoltaïque qui vont être installés d'ici la fin de l'année. Et il y aura le déplacement des clims aussi à prévoir pour pas qu'il y ait d'ombrage porté sur la production. Et l'objectif, c'est de produire 100% de l'énergie de l'école. Et vu la surface qu'on a, on va pouvoir produire aussi l'énergie pour les bâtiments administratifs ou autres en fonction de l'usage qu'on en fait sur la consommation. Donc ça, c'est pareil, ça va être un gros effort à la fois d'investissement, mais en même temps, ça va nous permettre de nous rendre beaucoup plus autonomes face à la variation du prix de l'énergie et également d'assouplir notre part de fonctionnement, puisque c'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir améliorer nos finances par la suite. Il y a eu également, au cours de la rentrée, le forum des associations qui s'est déroulé pour la première fois au Jardin des Gorguettes, qui était vraiment, vraiment sympa. Christian, tu avais fait un sondage pour savoir un petit peu la vie des associations entre la position de la Gorguette ou de la place Gambetta.
Oui, je suis passé à chaque association. Il y en a trois ou quatre qui auraient aimé le jardin de théâtre parce qu'au niveau de la scène, et puis enfin, pour eux, ils trouvaient que c'était plus pratique. Et même, j'avais demandé Gambetta, le jardin de théâtre ou les Gorguettes. À 95%, ça a été les Gorguettes.
Oui. Donc c'est bien, ça nous permet de réutiliser cet espace et donc de justifier les travaux de réhabilitation. Et donc on retravaillera le dispositif l'année prochaine. Cette année, c'était un premier essai. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir réutiliser le jardin des Gorguettes, comme on l'a fait également pour le 14 juillet aussi, où ça avait été aussi une chouette soirée, un moment sympa. Hier, il y avait la signature de la charte avec la chambre de métier de l'artisanat. Donc une signature que j'ai pu réaliser parce que vous avez voté aussi cet accord. Donc, je l'ai signé au nom du conseil municipal. Donc, c'est un partenariat de soutien pour l'ensemble des artisans de la commune du Val et des métiers. Était présent le président de la chambre, son directeur. Il y avait également la directrice du CFA de Saint-Maximin, puisqu'ils sont associés avec la chambre, évidemment. Et il y avait le directeur adjoint de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, qui était présent, plus les artisans valois et le conseil d'administration de la chambre de métiers qui était présent. Et ces échanges-là nous ont permis justement de raccrocher le wagon entre les artisans, leurs besoins, et la chambre qui est là aussi pour les accompagner, donc nous permettre à nous de faire mieux le relais. Donc ça, c'est Michel Morel, qui, quand il reçoit des artisans, des porteurs de projets économiques, ça nous a permis de mieux comprendre aussi quel était le bouquet proposé par la chambre. Et aussi, le Val accueillera des formations pour les artisans et les acteurs des différents métiers pour pouvoir justement leur permettre d'accéder à une formation. On proposera de mettre à disposition des salles. Puis ça fait toujours du monde dans le village. Puis en général, quand il y a des formations, les gens, il faut bien qu'ils mangent à un moment donné. Et c'est bien qu'ils aillent manger dans le village et ça fait de l'activité, de la dynamique. Donc c'est dans cet intérêt-là qu'on propose aussi ce type d'activité sur la commune. Autre bonne nouvelle en termes de travaux et d'avancées, vous savez que nous sommes à l'automne. En général, l'automne, il pleut. Des fois, il pleut beaucoup, beaucoup et ça peut nous impacter sur des inondations. Eh bien, nous y sommes arrivés. La station du Carnier est installée. Ça fait plusieurs mois, mais surtout, elle est en fonctionnement. Tout marche. Max, peut-être tu veux nous en dire quelques mots sur la station ?
Non, c'est pas vieux, hein, ça date de 3 jours. Nous allons avoir une alerte SMS à peu près à 2 mètres du niveau maximum, avant que ça déborde. Une autre alerte à 1 mètre et l'alerte juste avant que ça déborde. Donc ce sera à nous, ça va être jaune, orange et rouge. Voilà. Donc ça va être à nous, suivant le temps qu'il fait, si la pluie reste et s'il pleut de plus en plus fort, il faudra intervenir, au moins faire dire aux gens des lotissements de sortir leurs véhicules. Et voilà. Ça nous laissera un moment, parce qu'après on doit, je pense qu'on doit aussi mettre une alerte dans les lotissements, une sirène, un type sirène, voilà. Voilà, et cette station, elle peut être équipée d'un pluviomètre. Alors, je ne sais pas si on ne va pas le mettre en même temps. Parce qu'on peut contrôler à tout moment le niveau de l'eau, voilà, sans se déplacer.
L'idée, ça serait de coupler le pluviomètre au Carnier et un pluviomètre en amont sur la route de Brasse, puisque c'est toutes les eaux qu'on va récupérer qui vont ruisseler. Ça permet vraiment d'affiner après le modèle. En tout cas, c'est un bel outil sur l'aide à la décision pour justement déclencher les évacuations. Et avant que la station soit en fonctionnement, on a expérimenté, puisqu'on a fait un exercice de crise avec le personnel communal, avec la réserve communale de sécurité civile. Et justement, le SMA, le syndicat qui nous accompagne sur la gestion des inondations, avait intégré en fait justement l'alerte, la mise en alerte de la station pour tester un petit peu notre prise de décision, à quel moment on allait déclencher les évacuations, si on attendait un peu trop, si on n'attendait pas assez. Donc c'était assez intéressant de pouvoir tester ça. Donc maintenant, on a cet outil qui fonctionne et je suis rassuré parce que ça va être un outil supplémentaire. Il faudra qu'on reste vigilant, évidemment. Il y a également aussi le dossier du plan Barnier, un dossier important, avec la convention où on avait acté donc une convention avec l'établissement public foncier et l'État, donc j'ai signé la convention, le préfet de région a signé la convention et le PF a signé également la convention, donc le portage va pouvoir se faire. Maintenant, c'est la question des délais, ça on est dans des éléments qui nous échappent directement, mais en tout cas on a tout mis en place pour mobiliser 3 millions d'euros en premier ordre pour le rachat des maisons, et c'est 4,5 millions en tout, et voilà, et j'allais rajouter 1,5 million, donc ça fait 3 millions plus 1,5 million avec la destruction et la remise en état des sites pour la suite. Donc ça arrivera en supplément et ça c'est pour notre pomme. La remise en état c'est pour notre pomme après. Donc ça sera encore un autre sujet. Mais en tout cas voilà, on a mobilisé 4,5 millions d'euros pour pouvoir sécuriser les personnes qui sont les plus exposées avec, je rappelle encore, la réduction de la vulnérabilité. Là il y a tout un programme de communication qu'on est en train de mettre en place pour accompagner les habitants qui sont impactés par justement les inondations mais qui ne peuvent pas bénéficier du rachat démolition. Oui, Christian.
Alors moi, j'avais deux questions. Les gens vont recevoir les alertes SMS ou c'est que les élus qui après déclencheront
Alors, c'est une station de surveillance. C'est pas un système d'alerte. C'est pas le même rôle. Parce que c'est un rôle aussi juridique qui est pas le même. Donc c'est le SMA, le numéro d'astreinte du SMA, les élus d'astreinte qui recevront, moi en tant que maire, Max en tant qu'adjoint et président délégué de la réserve communale de sécurité civile, et c'est après une décision d'élu de déclencher l'alerte d'évacuation.
D'accord.
Et l'alerte peut se faire sur SMS ?
Alors, elle pourrait se faire. Après, c'est à nous de prendre un abonnement pour pouvoir faire ceci. Le problème, c'est quand il pleut beaucoup, le réseau ne passe pas. Donc, ça, c'est aussi un autre problème. Mais déjà, nous, ça nous fait gagner du temps, puisque ça nous évite d'aller jusqu'au carnier pendant les pluies, avec des risques d'arbres qui tombent, etc. Dans ces cas-là, l'idée, c'est d'aller directement dans les quartiers. Quand on décide de déclencher l'évacuation, on peut l'anticiper, puisqu'on voit la montée du lac. Donc là, c'est une information précieuse. Et l'idée, c'est d'avoir un système de sirène dans les quartiers qu'on pourra déclencher, voilà, nous, directement. Et comme ça, les gens, les personnes à évacuer, les populations, pourront entendre cette sirène-là. Et ça n'empêchera pas le porte-à-porte pour toujours vérifier que... parce qu'en plein milieu de la nuit, par exemple, les gens peuvent ne pas entendre...
Donc l'objet de ma deuxième question, il a un peu posé un peu la même, mais à savoir, on avait des problèmes de réseau à l'époque.
Oui.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que s'il pleut beaucoup, même les élus ne soient pas prévenus ?
Alors là, on a un autre système.
Il y a deux systèmes. Il y a un système GSM et un système satellite. Si le système GSM ne passe pas, c'est le satellite qui prend le relais.
Voilà. Alors, c'est ça, on avait travaillé sur ça parce que c'était un des problèmes qu'on avait. La radio ne passe pas là, au niveau du lac. On a une configuration topographique qui fait que les ondes radio ne passaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce dispositif. Qui est assez conséquent, parce que du coup, ça nous demande d'avoir un abonnement satellite. Mais la sécurité de tous est quand même assez primordiale et on doit l'intégrer, évidemment, dans notre fonctionnement. Et après, l'idée étant de dire au SMA que c'est la compétence du SMA et qu'après, la commune porte le projet et il faut que chacun, après, prenne en charge l'entretien. Oui, Steve ?
Et est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'application qu'on avait faite avec le Val, justement, pour déjà en amont, avant qu'il n'y ait plus de réseau et tout ça, quand on voit déjà que le niveau est assez haut, qu'on annonce une pluie, dire attention, il y a le risque, donc ça veut dire qu'ils seraient déjà tous prévenus pour mettre à l'abri leur voiture, préparer une valise par exemple aussi. Il vaut mieux préparer pour rien que attendre le dernier moment. Et...
En fait, c'est ce qu'on fait sur le. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est assez régulièrement d'équipe en vigilance jaune ou orange dans le département du Var. Cette information, on la relaie quand on juge que localement, il y a vraiment un réel danger localement. Donc, c'est une responsabilité qu'on prend. Et on se sert donc des réseaux sociaux qui sont relayés normalement par le volet application, puisqu'on a le site de la commune qui récupère cette info. Mais on pourrait affiner un petit peu plus
encore. La différence entre une application et les réseaux sociaux, c'est que l'application, elle est dans le téléphone et on peut débloquer les notifications.
Exactement.
Ça, c'est gratuit. Contrairement à aller sur Facebook ou les différents réseaux et chercher l'information, là, elle s'afficherait et ça ne coûterait rien.
Ouais, non, mais c'est une bonne idée qu'on peut l'intégrer dans un onglet.
Voilà, tout on à faudrait fait. Demander aux habitants de eux de la télécharger de
vraiment. Ça, on continue de leur dire vraiment.
Voilà, et leur dire d'activer les notifications juste pour l'application et là, ils seraient vraiment prévenus de sûr. Quoi.
Enfin, ça, oui, ça,
ça, fait ça peut dégrossir le travail gratuitement.
Tout à fait. Non, ça c'est important de s'en servir.
C'est un danger important. Notre sirène, tu parlais des sirènes de secteur. La nôtre, on ne peut pas l'utiliser en cas de danger.
Le problème, c'est que si tu utilises la sirène, par exemple, de la mairie, il faut que les gens comprennent à quoi elle sert. Si tu vas meuter le village, mais tu ne vas pas meuter le quartier concerné, c'est la Ribérode, Sainte-Catherine.
Il y a l'information à donner. Il y a l'information à donner sur les applications, lui expliquer pourquoi, dans la nuit, la sirène sonne.
Tout à fait.
Par un article dans le journal des Valois, par
mais de façon,
réseau, par
après, ce qui va se passer, c'est qu'après, jusqu'à maintenant, donc on a mis en place ce système-là, on va l'expérimenter, on a fait des exercices de crise en interne. La stratégie, l'objectif, ça va être aussi de déployer des exercices avec les habitants qui sont exposés, justement. Ça va être maintenant, tout l'enjeu, ça va être d'acculturer les habitants à comprendre que lorsqu'on entend cette sirène-là, ou lorsqu'il y a une voiture qui vient avec une sirène et qui sonne porte à porte, de ce qu'il va falloir faire. Et donc d'avoir le réflexe de regarder l'application et de regarder les éléments.
Peut-être faire une campagne de pub incitant à la télécharger.
Tout à fait, oui. Il n'y
en a pas beaucoup qui l'ont.
Donc,
oui, ceux qui nous la donnent. Oui. Chaque fois, moi,
L'avantage, il est là. C'est tout l'intérêt de ça. Ouais. Donc, en tout cas, voilà. Donc, on avance sur le sujet. Et il y a encore des pistes d'amélioration, évidemment, sur la, comment communiquer et comment informer pour la suite.
Est-ce qu'on a une liste avec les noms, les téléphones, au cas où il faut doubler téléphone?
Alors ça, c'est dans les éléments avec le CCAS, c'est en partenariat. On a ce qu'on, en fait, on se sert de l'expérience de 2021, parce qu'on a pu récupérer toutes les infos, entre les premiers, et ça c'est dans le PCS, le plan communal de sauvegarde, où justement on sait comment contacter après les personnes, et surtout on a identifié dans le plan, on sait les personnes âgées, celles qui sont susceptibles de ne pas forcément entendre, de ne pas forcément se déplacer facilement. Et donc, dans l'évacuation, évidemment, on va intégrer ça. Mais ça, c'est valable pour les inondations, comme pour les incendies, comme pour n'importe quelle situation d'urgence qu'il pourrait y avoir. Il va y avoir ensuite, autre sujet également, début octobre, il va y avoir le démarrage des travaux de la réhabilitation de rénovation de voirie, rue des Airs et Trou du Cuy. Donc c'est vraiment ça qui permet de faire le contour pour les écoles qui a un champ de trous. Donc là, pareil, donc là, il y a eu un petit retard parce que la livraison des pierres a mis un peu plus de temps.
Je ne sais pas si le retard, il est toujours en cours.
Moi, on m'a annoncé pour début octobre.
J'ai le 7, mais les pierres, ils démarrent bien le 7, hein, le 7 octobre, le chantier.
Oui, mais c'est ça, c'est le 7. Annoncé, c'est le 7, voilà ce qui est prévu. Alors, il y a eu un retard, c'était prévu mi-septembre et ils n'avaient pas les pierres qu'il fallait pour la petite placette qui est prévue.
Il va falloir changer le panneau, il indique septembre.
Les panneaux sont. Mais il va falloir remettre à niveau, là, on attendait d'être sûr d'avoir les éléments. Le problème, c'est qu'ils te préviennent après la date qui doit démarrer. Donc. Après, on a également travaillé, et ça on en parlera par la suite, c'est le schéma directeur de l'eau, où là, il y a toute une stratégie à mettre en place pour les années à venir. Comment aller plus loin sur la sécurisation de la ressource en eau potable, de la distribution, le travail sur les pressions, qui est vraiment un gros problème sur notre commune. On a beaucoup de pression sur le territoire, la question de la chloration, la question du rendement du réseau. Donc on aura un élément et un débat, en tout cas au conseil municipal, pour pouvoir acter ce schéma directeur qui viendra compléter celui qu'on a du pluvial et celui qu'on a sur l'assainissement et qu'on met en œuvre depuis plusieurs années. Bonne nouvelle, la crèche. Donc, on avait voté donc le transfert de la parcelle à l'agglomération. L'agglomération avait acté ce transfert-là et nous avons voté aujourd'hui donc l'acte 2, c'est-à-dire le démarrage des marchés pour faire le plan et la réalisation de ce projet. Donc, il y a le lancement d'une commission qui a été votée ce matin en conseil d'agglomération. Donc, le sujet est sur la table et en cours de déployer. Pour rappel, c'est un projet à 1,9 million d'euros, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur quand même financier qui sera porté pour le Val. Il y aura également aussi, juste à côté, le lancement du bassin de rétention des eaux avec le jardin de pluie. Pareil, là, on est sur le lancement aussi pour pouvoir justement mettre en place le plan et le fonctionnement de ce schéma-là. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en cours de démarrage pour cette année. Et puis voilà. Et à venir, un événement quand même d'une ampleur nationale, c'est la fête de l'agriculture paysanne qui va se dérouler sur le Val. Alors pourquoi nationale? Parce que c'est les 40 ans de l'ADR et qui est la structure qui organise cet événement-là. Et donc c'est les 40 ans de cette association d'accompagnement pour les paysans et la ruralité. Et donc ces 40 ans-là sont fêtés sur le Val. Donc on va accueillir pas mal de personnes et ça va se dérouler au niveau du Jardin des Gorguettes. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces éléments-là, je vous propose qu'on démarre le conseil municipal. Il est 18h52. Je vais prononcer à l'appel nominal Monsieur Alain Alberti, Madame Colette Alexandre, Madame Sophie Argouache est absente, Monsieur Christian Bentoumi, Madame Laurence Berlemont a donné pouvoir à Madame Anastasia Bringuet, Madame Jeanne Cavallaro, Madame Gisèle Conforti-Pernet, Monsieur Steve Courdouan, Monsieur Jean Culinati, Madame Géraldine Dudon, présent. Madame Anaïs Dufeu a donné un pouvoir à Madame Géraldine Dudon. Monsieur Max Fabre. Présent. Monsieur Patrick Falentin est absent. Monsieur Dormer Giroux est absent. Madame Marie-Sylvie Grosvert a donné pouvoir à Madame Colette Alexandre. Et donc Madame Marie-Sylvie donc a des interventions chirurgicales. Monsieur Franck Jamin. Madame Colette Lair. Monsieur Julien Lassoc a donné pouvoir à Monsieur Christian Bentoumi. Monsieur Christian Lefebvre. Monsieur Michel Morel. Présent. Monsieur Luc Pernet. Présent. Madame Corinne Rinaudot. Présent. Monsieur Georges Émonin. Monsieur Olivier Barral est absent. Madame Josiane Villain qui est présente. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons donc démarrer ce conseil municipal. Conseil municipal qui est organisé en 13 délibérations. Et avant cela, je vais nommer un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour être secrétaire de séance et venir signer toutes les délibérations? Oui, monsieur Christian Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Oui? Allez. Alors, nous avons deux approbations. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 28 juin 2024 et approbation du procès verbal du conseil municipal du 24 juillet 2024. Compte tenu de la période estivale et de la proximité, les deux ont été faits au fur et à mesure. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur les deux procès-verbaux qui vous ont été envoyés? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, nous passons à la délibération numéro 3. Adhésion de compétences optionnelles de la communauté de communes Méditerranée Porte des Morts à TE 83. Pour rappel, donc Territoire d'énergie 83, c'est le CIMIELEC qui a changé d'appellation. Et je donne la parole à Monsieur Pernet, à Luc. Je te propose de faire une synthèse de la délibération, si tu veux.
Le micro.
Si tu veux la lire en entier, vas-y.
Je vais la lire au moins sur les parties principales. La communauté de communes Méditerranée Porte des Morts a délibéré le 03 avril 2024 pour adhérer aux compétences optionnelles 1. Équipement d'éclairage public. 3. Économie d'énergie. Et 8. Maintenance des réseaux d'éclairage public au profit de TE 83 CIMIELEC. Le comité syndical TE 83 CIMIELEC a délibéré le 25 juin 2024 pour acter ses adhésions. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le transfert des compétences et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Voilà.
Merci Monsieur Pernet pour cet éclairage. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe à la délibération numéro 4, renouvellement d'engagement à la certification PEFC. Pour rappel, la certification PEFC garantit la gestion durable des forêts. Cela fait un peu plus de 5 ans que ça se développe sur l'ensemble des territoires en France ou au niveau international. Dans l'Hexagone, ce développement s'est appuyé à la fois sur les propriétaires privés et sur les communes, avec 60% de forêts communales certifiées PEFC. La commune s'est engagée en 2019, c'était une des premières actions qu'on avait menées, pour labelliser notre forêt communale, donc à peu près 600 hectares en label PEFC. Par exemple, le journal municipal qui est publié, c'est justement du papier issu de ces forêts-là. Donc c'est une gestion durable qui est apportée sur la question de l'aménagement et la gestion du patrimoine boisé. C'est une démarche volontaire par laquelle la commune garantit par un label indépendant la gestion durable de sa forêt en pérennisant ses fonctions économiques, environnementales et sociales, contribue à l'économie de la filière bois et aux emplois locaux qui en découlent, favorise la commercialisation de nos bois en répondant à une demande croissante de bois certifié et peut bénéficier de financements incitatifs pour la desserte et la régénération des forêts, des espaces forestiers. Conformément aux critères d'engagement et à la certification forestière, le propriétaire doit s'engager pour la totalité de ses surfaces forestières. Et après avoir pris connaissance des informations et pièces relatives aux modalités d'engagement au programme de reconnaissance des forêts, et donc il vous est proposé de décider d'adhérer pour l'ensemble des forêts que la commune du Val possède pour une période de 5 ans, de s'engager à respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans sa forêt les règles de gestion forestière durable en vigueur, d'accepter les visites de contrôle en forêt par PFC Provence-Alpes-Côte d'Azur et autorise à titre confidentiel à consulter tous les documents conservés à minima pendant 5 ans qui permet de justifier le respect des règles de gestion forestier durable. De mettre en place des actions correctives qui seront demandées par PFC Provence-Alpes-Côte d'Azur en cas de pratique forestière non conforme, d'accepter que sa participation au système PFC soit rendue publique, de respecter les règles d'utilisation du logo PFC en cas d'usage. Il est déjà installé puisqu'on était labellisé au niveau des panneaux du parcours de santé à l'entrée. D'accepter le fait que la démarche PFC s'inscrive dans un processus d'amélioration continue et qu'en conséquence, les règles de la gestion forestière durable sur lesquelles la commune s'engage puissent être modifiées. Et enfin, de s'acquitter de la contribution financière auprès de PFC Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de m'autoriser à accomplir les formalités nécessaires à cet engagement et à signer les différents formulaires d'engagement. Est-ce que vous avez des questions sur la reconduction de du renouvellement de PFC ? Oui, Steve ?
On est d'accord que c'est une mesure contraignante, entre guillemets, puisqu'il faut s'engager à respecter le label. C'est une bonne chose. Et la question est, c'est par rapport aux particuliers qui ont des bois, eux, ils n'en font pas partie du coup. Il faut qu'eux, ils adhèrent aussi.
Oui. D'accord. En fait, l'annonce, nous, la commune, on reconduit à avoir cette certification pour les propriétés communales. D'accord. Donc, c'est les bois communaux. Si un propriétaire veut le faire, il peut le faire à titre personnel et c'est à lui de contacter les éléments. On peut faire un relais si tu veux.
Je pense que c'est bien de. Il y a ça et il y a aussi d'être pertinent dans le fait qu'on ait poussé à l'OLD, à la protection incendie, que ce soit pour les habitats, mais aussi pour les habitats naturels comme une forêt. Je pense que c'est dans la bonne continuité que tout se suive. On fait tous les efforts ensemble pour avoir une belle forêt, parce que si c'est pour qu'il y en ait qui fasse une coupe à blanc en plein milieu, c'est ridicule aussi, quoi.
Mais ce qu'on peut faire, c'est que dans la prochaine communication municipale, on peut parler de la forêt du Val et donc de cette certification et de faire le lien pour les propriétaires de forêts privées sur le territoire communal. Michel, tu peux intégrer ça dans le prochain sommaire du journal municipal ? Oui,
Josiane. Il y a le processus d'éco-pastoralisme aussi.
Alors, c'est dedans aussi. Ça fait partie. En fait, tout est compatible. Tout ça est géré. Nous, on a concédé notre forêt en gestion à l'ONF. Peut-être Monsieur Émonin pourrait nous en parler mieux que quiconque. Cette gestion-là, l'ONF, après, c'est un accompagnement qu'on a. En plus, on est une commune qui adhère à l'association des communes forestières. Donc, on a un accompagnement privilégié sur une association qui existe depuis les années 30. Qui est une des plus grosses associations d'élus du département. Et donc, à ce titre-là, l'accompagnement nous avait amené en 2019 à adhérer donc, à la certification, mais aussi la commune avait déjà des pratiques sur de l'agro-silvopastoralisme, notamment sur l'entretien des FCI, donc sur le schéma de lutte contre les incendies. Et on a une convention avec le berger du Val, justement, sur une convention de pâturage dans la forêt. Et ça, c'est géré en partenariat avec l'ONF, puisqu'ils vont regarder un petit peu la pression qu'un troupeau va exercer sur le milieu forestier et permettre sa régénération.
Et avec l'aval de la Chambre d'agriculture ?
Pas forcément, là, non. Parce que là, on est dans le milieu forestier, donc non, pas forcément.
Mais si, pour l'élevage, c'est bien eux qui sont concernés ?
Pas directement sur le territoire du Val. Alors peut-être qu'ils accompagnent les éleveurs, ça c'est possible. Mais nous, dans les conventions, c'est l'ONF, l'éleveur directement et la commune. Oui.
D'accord.
Oui. Anastasia, tu avais une intervention.
Une curiosité. Le label, finalement, qui est-ce qui détermine qu'on choisisse celui-ci plutôt qu'un autre ? Parce qu'il y a FSC, PFC.
Alors, c'est l'ONF qui nous a recommandé celui-ci, qui est, qui est pour l'instant le label le plus utilisé pour la vente de bois, etc. Et ça permet de certifier que ce bois-là est en gestion durable.
Oui.
Et c'est celui que l'ONF reconnaît et privilégie. Donc, okay. On suit ce que l'ONF nous recommande. Oui, c'est leur métier.
Bien sûr.
Et du coup, quand nous, on achète, par exemple, on a refait le parcours de santé avec les agrès en bois, par exemple, mais c'est des bois PFC. Alors, qui ne viennent pas de la commune du Val, mais qui viennent d'une forêt française PFC, et c'est l'ONF qui avait fait l'installation.
Ah oui, totalement. Mmh. Et puis, enfin, j'ai travaillé dans ce domaine, dans le bâtiment. Tu ne vends rien si tu n'es pas labellisé PFC ou FLC.
C'est ça.
C'est pour ça que j'avais une curiosité de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on choisisse l'un plutôt que l'autre ?
Peut-être que Julien pourrait nous expliquer un peu plus en détail, mais il n'est pas là ce soir et c'est moi qui porte la délime.
Voilà.
On lui demandera la prochaine fois.
Mais on lui demandera, mais volontiers. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose que l'on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité. Délibération numéro 5. Je donne la parole à Monsieur Fabre qui va nous parler d'une demande de subvention auprès du département pour la végétalisation d'espaces publics.
Oui, merci Monsieur le maire. En 2021, la commune a créé un nouveau parking à l'entrée du village Saint-Benoît, puis en 2022, une nouvelle rue, l'allée des Mélias. Ces deux programmes de travaux incluaient évidemment une dimension végétale, essentiellement pour la plantation des grands arbres, Mélias dans l'allée des Mélias, et micoucouliers, chênes blancs, érables, champêtres et arbres de Judée sur le parking. Toutefois, sur ces deux sites, la commune souhaite poursuivre sa politique de végétalisation des espaces publics en créant de véritables poumons verts aptes à répondre à différents objectifs. Créer des niches de biodiversité en milieu urbain, créer des îlots de fraîcheur par ombrage et évapotranspiration, limiter les interventions de tonte tout en améliorant la qualité des sols et leur perméabilité par un paillage approprié. Le modèle choisi est celui déjà mis en œuvre dans le nouveau square Alfred Gauthier, qui offre un référentiel pertinent en termes de densité de plantation, d'utilisation de variétés exclusivement méditerranéennes ou adaptées à nos conditions climatiques, l'organisation des espaces et la qualité environnementale. Le coût de l'opération est de 45 000 euros hors taxes, répartis de manière suivante. Le parking Saint-Benoît, 28 000 euros, incluant le décompactage et l'amendement organique du sol, le paillage en broyat forestier sur 8 à 10 cm, la reprise de l'arrosage automatique pour les deux années qui suivent la plantation. L'allée des Mélias, 17 000 euros, incluant les mêmes prestations ainsi que la végétalisation du mur du cimetière sur toute sa longueur par des plantes grimpantes. Nous devons donc autoriser M. le maire à solliciter une subvention du département en hauteur de 80% du coût estimé des travaux, soit 36 000 euros. Et bien sûr, il restera 9 000 euros d'autofinancement pour la commune.
Merci Monsieur Fabre. Donc en fait, c'est la continuité. On avait dit qu'on faisait l'aménagement de ces deux sites en un premier plan et qu'après, on densifiera en deuxième temps parce que ça faisait une opération trop importante dès la première année. Donc ça permettait de voir aussi la sélection des arbres aussi. Par exemple, les médias ont très bien tenu. Il y aura des sujets à changer au niveau du parking Saint-Benoît. Y en a qui sont encore sous l'assurance de la structure, d'autres non. Donc ça permettra de remettre à jour un petit peu ça et d'aller vers plus de densité, comme ça a été dit, pour faciliter l'entretien derrière à ce niveau-là. Et avoir un...
C'est plus des plantations d'arbustes qui vont se faire.
C'est ça. Et un lieu plus accueillant aussi pour terminer le site, puisqu'il n'est pas terminé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, Steve.
Moi, je suis un peu inquiet parce que je vois ce qu'on fait en termes d'espace vert, c'est pas foufou. Là, j'ai un peu peur que le niveau de densité, on va être encore dans le trop dense. L'erreur de base, là, tout est commune, hein, c'est pas propre à nous, parce qu'on veut un résultat rapide. Ça s'étouffe, ça meurt au bout de 5, 10 ans. Après, on s'en fout, c'est peut-être plus nous qui sommes à la mairie, mais je trouve ça dommage. Je l'ai déjà dit pour les arbres, il y a déjà des arbres qui meurent et ils sont les uns sur les autres, c'est pas logique. Là, ça commence un peu à être un peu gênant parce que c'est de l'argent public, c'est pas le nôtre, certes, mais là, j'ai l'impression que ça va être...
Si, c'est le nôtre, ouais, c'est notre argent.
C'est nos impôts, ouais, mais c'est ça qui me dérange justement. C'est là, quand j'ai vu les plans, ça va être dense quand même, très très dense. Hein, et puis, il y a un peu les choix des essences, enfin, c'est l'essence qu'on voit à Paracol. Hein. Si vous voyez 10 cm de paillage au pied des arbres, vous me le dites. En général, ils sont dans la caillasse et rien d'autre. Alors oui, il faut un peu d'eau au début pour les charger. Donc je ne sais pas qui a fait ce choix-là. C'est un peu bizarre. Il y avait celui qu'on avait vu de M. Hennebic qui était très bien fait, qui était très espacé. Et c'est dommage qu'on n'ait pas gardé ça. Je ne trouve pas ça très pertinent, en fait. Mais d'un point de vue botanique, je parle. Après, c'est très joli, certes.
Sur la densité, c'est ce que M. Hennebic avait préconisé.
Ouais.
Comme ce plan-là, non.
Si. Ah, c'était pas ce plan-là, le schéma, voilà. Mais sur la densité des massifs, c'était exactement ça.
C'est très dense. Ça, pareil pour ce qui a été fait pour la déviation, c'est tout est les uns sur les autres et tout ça. Alors le résultat se fait bien sur la première année, mais ça tiendra pas. Je vous le dis tout de suite, ça tiendra pas. Alors après, on dira, on changera ou quoi, mais je trouve ça dommage. Le but, c'est d'avoir une pérennité, c'est ce qui est annoncé.
Mais c'est pour ça qu'on l'a fait en deux temps, parce que d'ailleurs, on a voulu voir un petit peu comment ça se comportait à ce niveau-là, sur la Saint-Benoît par exemple. Et là, l'idée, c'est de densifier maintenant l'intérieur des massifs, là où il y a,
oui, oui,
où il y a rien qui pousse et ça ressemble à rien là pour l'instant. Donc l'idée, c'est de passer à cette étape-là. Oui, c'est déjà bien mieux qu'avant, c'est clair.
Et puis en plus, il y a une diversité de hauteur de spécimens.
C'est ça, là, on n'a fait que les grands sujets et quelques lauriers roses. Et là, l'idée, c'était de remplir à l'intérieur.
C'est surtout pour éviter aussi la pousse des mauvaises herbes, parce que l'entretien, ça en coûte.
Après, il faut faire un choix. Après, on peut tout goudronner, hein, et un peu d'entretien, après un petit peu de balayeuse, mais c'est un choix. Quand on travaille avec du vivant, on ne peut pas tout avoir. Hein. Les arbres, on me demande ça tous les jours. Hein. Je veux un arbre qui ne fait pas de feuilles, pas de fruits, qui ne salit pas. C'est des arbres en plastique. Hein.
Ouais, ça existe.
C'est la réponse que je donne. Hein. On veut toujours une idée parfaite. Ça s'appelle un brise-vue. Voilà,
ouais, c'est pour ça qu'on essaye de faire pour
donc,
le mieux.
Si vous voulez des espaces verts sans entretien, je vous le dis de suite, ça n'existe pas.
Non, pas sans. L'idée, c'est de limiter
au
maximum.
Il faut avoir les ressources.
Mais pour l'instant, c'est mal parti. De ce que je vois. Après, j'attends de voir le résultat.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Anastasia.
Oui, et moi, je voulais savoir pour l'aire de camping-car, du coup, est-ce que ça fait partie du plan sur l'allée des Mélias?
Oui. Mmh. Oui, okay. Mais c'est toute la partie qui n'est pas végétalisée encore.
Voilà, ils vont être contents parce qu'ils sont en plein.
Et une densification encore. Ouais. Alors, eux, ils ont là, ça va être plutôt la strappe en dessous des arbres parce que là, ils ont les mélias, la première allée.
Ah oui.
Dans le schéma, si tu veux, on ne pouvait pas planter d'arbres dans l'air parce qu'on sait ce qui va se passer sinon avec des camping-cars qui vont manœuvrer. Donc, ce qui va se passer, là, déjà, l'ombre commence à se porter bien. Il y aura la moitié de l'air qui sera à l'ombre et l'autre partie qui ne sera pas à l'ombre. Ça c'est sûr, mais ça marche assez bien par rapport à la fréquentation, parce que ça y est, là, on commence à atteindre le régime de croisière du fonctionnement de l'air. L'été, on est à 50% d'occupation, chose qu'on n'avait pas au début, on était à 20% l'été, même pas. Là, on arrive à 50%, donc ça correspond assez bien. L'été, les gens ne restent pas, ils viennent juste la nuit, ils vont faire 4 courses le matin, et après, ils vont au Gorge du Verdon, ils vont... Et par contre, à l'automne, hiver et printemps, là, ils vont rester. Et donc là, du coup, c'est assez intéressant pour eux aussi. Et là, on est à 100%. Là, c'est hier soir encore, on était plein. C'est plein tout le temps, en gros. Donc, ça tourne assez bien.
C'est vrai que ça tourne bien.
Donc, l'idée, c'est de finir aussi l'aménagement. Il y a le parking. On avait fait des épis, des dépassements. Mais ça, il faut le végétaliser. Donc, c'était terminé cette partie-là, comme on s'était dit. Mais j'entends la question de la densité.
Et ce qu'il faut voir sur le camping-car park, c'est noté. Autrement dit, tout ce qui vient passer la nuit, ils ont les moyens de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est ce qui fait revenir les gens, parce que les gens regardent, moi j'ai fait ça cet été, on regarde tout ce qui se passe dessus et ça donne ou envie de venir ou de pas venir. C'est vrai que si c'est toutes les aires où il y a beaucoup de végétation, elles sont plus cotées que les autres.
C'est un
camping-car
qui le dit.
Oui.
Et ça, c'est l'économie indirecte après, parce qu'on le voit. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on soumette au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc une abstention. Très bien, à l'unanimité. Donc nous passons à l'autre demande de subvention pour les travaux de voirie communale. Et je donne la parole à Monsieur Fabre.
Alors, dans le cadre de sa politique générale d'amélioration du cadre de vie, la commune a décidé, en 2021, de lancer un programme pluriannuel de réfection de sa voirie. Pour 2025, le programme prévoit la réhabilitation de deux voies particulièrement détériorées, la rue Marceau et le chemin des Vergers Ouest. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le chemin des Vergers Ouest. C'est entre les Rébias et le chemin des Olivettes, derrière le CAT.
Riouber. Oui.
Sur la rue Marceau. Alors, les travaux concernent la rénovation des chaussées, la reprise des caniveaux et des bordures et la signalisation horizontale sur un total de 62 mètres linéaires. Coût de la tranche, 27 864,50 € hors taxe. Sur le chemin des Vergers, les travaux comprennent en outre le reprofilage de la chaussée et le confortement du talus sur une partie du linéaire. Le coût de la tranche, 70 155 €. Il faut ajouter la mission à maîtrise d'ouvrage de 9 583 € hors taxe, le géomètre 2700 euros hors taxe et le diagnostic amiante désenrobé 1880 euros hors taxe. Ça fait un total de 112 182,50 euros et qu'il faut rajouter 5% pour les imprévus, ce qui fait 5 609,12 euros, pour un total de 117 791,62 euros, arrondi à 118 000 euros. La demande de subvention porte sur 70% du coût total de l'opération, soit 82 600 euros. Donc nous devons approuver le projet tel que je vous l'ai décrit, valider le financement de ce projet, donc la subvention au conseil départemental du Var pour 36 000 euros, soit 80% du montant, et bien sûr l'autofinancement de la commune. Ah non, je me trompe, pardon. Les travaux, c'est 118 000 euros. Les recettes, le département, la demande de subvention est de 82 600 euros. Et l'autofinancement, nos fonds propres, 35 400 euros. Nous devons autoriser M. le maire à solliciter cette subvention du département à hauteur de 70% du coût total hors taxe des travaux, soit 82 600 euros. Voilà, M. le maire.
Donc là, c'est la poursuite. Donc cette année, donc on aura Trou du Cuit et la rue des Airs. Et donc l'année d'après, qui est prévue, c'est Chemin des Vergers Ouest et la rue Marceau. Donc on continue le programme de rénovation des voiries. Il y a un retard qui est colossal. Mais chaque année, on arrive quand même à bien avancer. On a eu la rue du Humet, le chemin des Médias, le chemin de Corrance, le chemin de la Roguière. Donc petit à petit, on est en train de rattraper ce retard-là et qui permet d'avoir une meilleure qualité des voiries. Et donc, il y a tout un travail sur la planification sur la suite encore, parce qu'il y a encore des voiries. Donc, il y a une intervention de M. Kuninaki.
Oui,
et
avec la rue Marceau, on n'aurait pas pu adjoindre la place des pénitents.
Trop cher.
Parce qu'elle est en très mauvais état. Alors, il va y avoir tout neuf, et au milieu, une verrue.
Il faudra.
Voilà. Parce qu'à la place des pénitents, il n'y a pas devant un chemin d'eau, il n'y a rien. Il y a juste à faire le.
Il y a les platanes.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Bon, le budget ne suffit pas, quoi. Voilà. Il faut. C'est une. Comment dire, il faut le faire uniquement la place des pénitents par rapport au montant des travaux.
Oui, je rejoins Jean sur sa réflexion, effectivement, parce que la Roguière a été faite, il va y avoir ce trou. La rue de la Miséricorde, elle est faite. La rue Marceau, elle est faite. Il va y avoir ce trou en plein milieu.
Alors il y a aussi...
On manque de budget, mais...
Non, il y a des raisons. Ce n'est pas par hasard, évidemment. Je n'ai pas censé oublier qu'il y a un projet, la bergerie de construction de logements sociaux pour l'armée, pour l'USS7. Il va bien falloir gérer ces travaux-là. Le seul endroit où on va pouvoir stocker le temps des travaux et de faire les manipulations, ça va être là. Donc l'idée, c'est justement parce que ça ne sera pas terminé, puisque la rue, c'est la rue de la Paix.
La rue de la Paix.
Celle-ci ne sera pas refaite aussi. Donc il restera la place des pénitents et la rue de la Paix à refaire. Donc attention, la rue Marceau va être refaite parce qu'il y a un réel besoin. Il y a eu le chemin de la Roguière, les tennis, tout ça qui ont été refaits. Mais l'idée, c'est comme il va y avoir les travaux, il va falloir stocker du matériel, faire les livraisons, faire les rotations, etc. Si tu refais à cet endroit-là, on va tout dégrader. Donc c'est pour ça que ça, c'est planifié. On a rencontré l'USS7 et l'armée avec Varabita, justement, pour la réalisation des travaux de ces logements au bénéfice de l'armée, qui nous permettent d'être dans le compteur SRU. Et donc, j'espère de pouvoir alléger l'amende SRU. Donc, si on refait tout, on ne peut plus faire les travaux à l'intérieur. Donc voilà, il y a une réelle raison. Ce qu'il faudra apporter comme attention, c'est qu'on a un programme aussi en parallèle. C'est que, je rappelle qu'on rattrape 15 ans de retard sur l'entretien des voiries. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses au fur et à mesure. Ce qu'on fait, c'est qu'on réhabilite les voiries et de l'autre côté, on va boucher. Et donc, pour améliorer le confort, c'est de la rustine, mais on a besoin de rustine aussi pour le quotidien de chacun. Donc voilà pourquoi les pénitents ne sont pas faits. Sinon, on l'aurait fait, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Steve ?
Moi, c'est juste, je suis très content de tout ce qui a été refait et tout ça. Et, juste, j'ai réfléchi à la Jean Moulin. On voulait le refaire, on savait que c'était très très cher. Et ça, on avait dit qu'on faisait des réflexions là-dessus. Je voulais savoir si on a pu avancer un peu.
Alors là, ce qu'on avait évoqué, c'est 1 100 000 qui était au budget, enfin qui avait été budgété en 2019-2020 à peu près. Donc,
il doit falloir ajouter beaucoup de plus.
Vous imaginez un 30% de plus-value à peu près depuis. Là, la question, c'est tant que on n'a pas bouclé le dossier Barnier, c'est-à-dire démolition des maisons, pareil, on ne va pas refaire une avenue complète. Si on va faire venir des camions pour venir démolir une dizaine de maisons, plus évacuer les remblais, etc. Donc on avait écrit aux habitants, leur disant oui, on s'était engagé à refaire cette avenue. Par contre, notre problème, il est là, c'est qu'on ne va pas engager plus d'un million d'euros pour derrière le dégrader en l'espace de 2-3 ans. Donc ce qu'on s'est engagé, c'est à mieux travailler sur le bouchage des trous, justement, et après, dès que les travaux sont faits, de les planifier. De toute façon, on va en parler en séminaire de travail, justement. Il y a une priorisation à prévoir sur les prochaines années. Et donc, justement, il va falloir bien qu'on cale la réalisation des travaux. Jean Moulin est pour moi une réhabilitation à part. Ce n'est pas dans le programme des 150 000 euros par an qu'on met. On n'y arrivera jamais. Donc, l'idée, c'était, on a une opération à part qui est dédiée. Par contre, elle sera gérée dès qu'on aura terminé de gérer les inondations et cet aspect-là. Non, pour moi, c'est une opération dédiée. Mais c'est une opération à part. Par contre, il faudra qu'on tranche bien sur la façon dont on va mener le
problème. Même la place, c'est une opération à part.
Oui, alors l'idée, c'est que les places, c'est que là, on va se focaliser sur toutes les rues. Et après, il y aura un programme sur les réhabilitations des places. Il y a les pénitents, il y a le parking ici, juste à côté de la mairie, il y a Louis Fournier. Donc, il y a toutes les places après à reprendre petit à petit, au fur et à mesure, en fonction des déformations des arbres, des canalisations. Et il faut boucler ça avec les réseaux, parce que en plus du retard qu'on a de la voirie, on accuse un retard sur le réseau d'assainissement et un retard sur le réseau d'eau potable. Et quand c'est possible, ou les descendre, ou les cramper, voilà, et voir un petit peu les possibilités. Chemin La Roguière au tennis, on a descendu les câbles. Tout là, on a pu le faire. Donc quand on peut l'intégrer, on le fait, mais pareil, ça va dépendre de plusieurs circonstances qui font que... Donc il faut arriver à coupler ça, parce qu'il faut qu'on gère le dessus et le dessous.
Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de sous.
Question.
Du oui. Coup, pour les vergers, donc il y a les vergers ouest, il y a une continuité de chemin, mais du coup les deux chemins sont pas reliés. Et est-ce qu'on peut pas l'envisager de pouvoir relier les deux chemins?
Alors c'est pas la demande des propriétaires de garder cette liaison d'une partie des propriétaires. Une partie, c'est de garder cette liaison en piste cyclable, en cheminement doux. Mais pas de garder en circulation routière. Ça augmenterait le trafic. Et
ça éviterait que les voitures puissent se croiser et ça permettait de fluidifier. Et comme il y a de plus en plus de maisons dans ce quartier, bah ça permet aussi peut-être de fluidifier le ciel.
Il faudrait en rediscuter. Mais moi, les dernières discussions que j'avais eues, mais okay. Je suis prêt à en discuter. Là, l'idée, c'est de partir sur la partie ouest parce qu'on a un problème d'écoulement des eaux. Et on a un gros souci avec le champ qui déverse de l'eau sur la partie verger ouest. Mais il faudra s'occuper des vergers est, comme c'est prévu également. Parce qu'il y a des évolutions, forcément. Donc la question de la jonction, c'est un débat. Moi, j'avais eu pas mal de demandes, notamment par rapport au cambriolage. Aussi, certains avaient peur que le fait de faire une jonction, quand on est en cul-de-sac, en général, les cambriolages, il y en a moins. Bon, donc ça fait partie des réflexions à avoir.
Oui. Le coût, parce que de l'autre côté, le chemin des vergers, la première partie...
Ils sont tout faire. Mais
on avait plus de 350 000 euros d'estimation. Oui. Alors maintenant, ça doit être 400 000 si ce n'est pas plus.
Et le chemin reste étroit. Et ouais. Lorsqu'il y a eu des demandes, par exemple, les pompiers.
Il y a des grues qui tombent dans le caniveau.
Et des demandes, demandent des pompiers, notamment, d'avoir des aires de retournement.
Exactement.
Donc s'ils demandent des aires de retournement, c'est qu'il y a une problématique de circulation. Ouais.
Pas que maintenant, de toute façon, à chaque construction, à partir d'un certain nombre de constructions, ils demandent une aire de retournement. Mmh. Parce que ça va être indépendant de la parcelle. Mmh. Mais là, l'idée, c'est... On va avoir une réunion, on va parler justement des voiries. L'idée, c'est d'affiner avec une commission d'élus sur la voirie. Vous n'imaginez pas le retard qu'on a sur les voiries existantes. Et donc, il faut qu'on se concentre déjà sur ce qui existe et après qu'on puisse améliorer par la suite. Mais en cheminement doux, déjà, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Je donne la parole encore à M. Fabre, qui va nous parler cette fois-ci d'une demande de subvention au département au titre du fonds d'initiative cantonale.
Alors, le conseil départemental a mis en place en 2023 un dispositif d'accompagnement des projets d'investissement conduits par les communes. L'axe 1 de ce nouveau dispositif s'intitule le fonds d'initiative cantonale, FIC. Ce fonds, animé par chaque binôme d'élus du canton, s'inscrit dans l'engagement du département en matière de solidarité territoriale. Il permet d'accompagner les communes dans leurs projets d'investissement dans les domaines des voiries, des bâtiments et des équipements publics. La commune souhaite solliciter le département au titre de ce fonds d'initiative cantonale pour des travaux de reprise de scellement des grands vitraux de l'église, qui est un bâtiment public, côté place du 4 septembre. Pour rappel, ces vitraux ont été entièrement restaurés il y a quelques années, mais les jointements des vitraux dans la façade et la reprise des encadrements en pierre de taille n'ont pas été réalisés à l'époque, faute de budget. Une simple reprise des joints d'étanchéité à l'enduit serait un travail bâclé d'une durée de vie limitée. Une restauration totale de la façade coûterait plus de 60 000 euros. Notre choix s'est donc porté sur une solution médiane, avec restauration des encadrements en pierre, puis reprise des jointements sur ces nouveaux supports. Le coût de ces travaux réalisés par une entreprise spécialisée est estimé à 28 705 euros. Nous devons donc approuver le projet de travaux tel que je viens de vous le décrire et valider le plan de financement. Alors, solliciter le département au titre du FIC pour 16 632 euros, parce que c'est financé qu'à 58%, nos fonds propres 12 073 euros. Voilà, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter cette subvention au département.
Donc pour rappel, les vitraux, en fait, ils avaient été changés en 2017, je crois. C'était Aymeric Paz qui suivit le dossier, et c'était donc sous la municipalité de Monsieur Saulnier. Et
les joints intérieurs,
mais intérieur, pas extérieurs. Extérieur. Ça, je me rappelle, à l'époque, ça avait... C'est ça, mais les joints intérieurs, mais pas, et du coup, extérieurs, ils ne sont pas faits. Donc, on a des gros problèmes d'étanchéité et on le voit.
Et les vitraux s'abîment. Ouais.
Et on voit que c'est en train de s'abîmer. Donc, l'idée, c'est de reprendre ça, évidemment, côté extérieur. Et si vous regardez bien, les pierres tout autour qui sont complètement abîmées, qui sont en train de s'éclater avec le gel, se déceler, donc elles risquent de tomber. Donc l'objectif, c'est de refaire cette partie-là et de terminer ce chantier-là pour entretenir le patrimoine communal. Est-ce qu'il y a des questions, interventions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je donne la parole à présent à M. Alain Alberti, qui va nous parler des sommes dues par GRT Gaz au titre de l'occupation du domaine public communal pour les ouvrages de transport de gaz pour l'année 2024.
Merci, M. le maire. Alors, M. le maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n'avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. L'action collective des autorités organisatrices des services publics de la distribution publique d'électricité et de gaz, tel que celui du syndicat Siemlegvar auquel notre commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. Considérant le linéaire du réseau public de transport pour la commune du Val, qui s'établit à 4883 mètres, considérant la nécessité de fixer une redevance dans ce cadre, Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer le montant de la redevance due au titre de l'année 2024 pour l'occupation du domaine public par le réseau public de distribution et de transport de gaz et par les canalisations partières de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé, tel qu'on vient de le voir, en mètres arrêté au 31 décembre de l'année 2023. La recette correspondante au montant de la redevance perçue sera inscrite au chapitre 66, qui est le chapitre « Produits de services et ventes diverses ». Que la redevance due au titre de 2024 soit fixée en tenant compte de l'évolution survenant de l'indice ingénierie à partir de l'indice connu au 1er janvier de cette année. De valider la redevance sur la base de ces principes, soit un calcul qui s'établit, vous avez la formule de calcul, pour un total de 385 euros. Voilà, monsieur le maire. Ce qui va alimenter nos recettes.
Merci pour ce travail minutieux. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération que l'on connaît à chaque année ?
Tous les ans.
Tous les ans, on la passe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, monsieur Alberti. Je donne la parole pour section du patrimoine, mise en place d'une convention de dépôt-vente de produits artisanaux à l'espace tourisme et découverte, à monsieur Christian Bentoumi. Et juste avant ça, je voulais dire quand même qu'on a eu une très belle fréquentation depuis son ouverture, puisqu'on est à plus de 3000 visiteurs depuis l'ouverture de l'espace tourisme, donc c'est quand même assez important. Donc on est au-delà de nos attentes. Moi, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'il y a du passage dans le village et qu'on est en bonne phase, justement, dans la redynamisation de la vie du centre du village. Oui. Alors, on ne le compte pas, Christian.
Non, c'est vrai que j'y vais assez régulièrement, mais moi, je ne suis pas comptabilisé par les filles qui tiennent les statistiques. Non, c'est vrai que j'y vais assez souvent et je vois beaucoup de gens que je ne connais pas. Ça veut dire que c'est du passage, soit par l'air de camping-car ou pour d'autres raisons. En effet, ça marche bien au niveau de la fréquentation. Oui, oui, encore aujourd'hui, puisque que tu t'es trompé dans les comptes. Ah non, c'est Patricia, oui. Oh oui, il a fallu refaire les comptes. Non, mais pour dire, il y a tellement de monde qu'on arrive à ben, on est à la bourre, quoi. Alors, il faut que... Non, c'est vrai, quand il y a beaucoup de monde, c'est pas évident. Oui.
Vous avez rectifié les comptes, c'est
oui,
bon.
Oui, ça a été rectifié, oui. Non, mais parce que des fois, il y a beaucoup de monde, c'est la cohue, alors c'est pas toujours évident, celles qui tiennent l'accueil, puis c'est toutes des petites sommes, alors, avec des décimales, etc. Bon, enfin, en tout cas, tout est rectifié. Alors, monsieur le maire rappelle que par la délibération numéro 2020/095, le conseil municipal a autorisé la création de la régie numéro 10813, régie des activités culturelles permettant la réalisation des produits suivants: les repas festifs, les entrées des musées, les visites guidées, la vente des billets de spectacle, les activités de loisirs. Afin de poursuivre l'activité de dépôt-vente à l'espace tourisme et découverte, mise en place par l'arrêté du maire numéro 18A/2023 du 15 juin 2023, le comptable public demande qu'une délibération soit prise pour autoriser M. le maire à faire appliquer la convention de dépôt-vente en cours. Aussi, il nous faut décider d'approuver la mise en place avec les partenaires de l'espace tourisme et découverte des conventions de dépôt-vente pour la vente des produits d'artisanat local, ainsi que d'autoriser M. le maire à signer les dites conventions pour une durée de 2 ans renouvelable.
C'est la simplification administrative. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments purement financiers ? S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je donne la parole à présent à Mme Jeanne Cavallaro, pour nous parler de la mise en place d'un dossier de sponsoring venant en soutien financier pour la fête de l'Olivier du 10 novembre prochain.
Donc oui, la fête de l'Olivier du 10 novembre, ça sera la 3e édition de cette fête initiée en 2022 et qui monte en puissance. Donc qui dit monter en puissance dit coût. Donc, monsieur le maire... Rappelle que par la délibération 2024/027, le conseil municipal a approuvé la demande de subvention faite auprès de la région Sud pour une aide financière d'un montant de 1 000 euros. Donc celle-ci est en cours d'instruction, en prix. Pour rappel, le plan de financement de la fête de l'Olivier est estimé à un rapport charge-produit équivalent à 6 136 euros. C'est précis. Et intègre pour partie un soutien par sponsoring d'un montant pouvant aller de 50 à 1 000 euros. Donc, monsieur le maire expose le dossier de sponsoring et propose à l'Assemblée délibérante d'autoriser une convention de partenariat entre les prestataires intéressés et la commune du Val.
Merci, Jeanne. En fait, l'idée, c'est de pouvoir financer la partie d'autofinancement de la commune, puisque sur le don, on peut l'additionner. Et donc, l'avantage d'un contrat de sponsoring, c'est qu'une entreprise peut verser donc, cette somme-là et c'est défiscalisable à partir de jusqu'à 70% de la valeur du don. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir le récupérer. L'idée, c'est de ne pas travailler avec n'importe quel sponsor, mais d'être dans le thème de l'Olivier, évidemment. Donc, voilà, c'est travailler plutôt avec le secteur du terroir et donc de faire ces propositions-là. C'est toujours ça de prix et ça nous permet de financer un événement qui est sympa. au moment où l'année est la plus creuse, hein, puis en général en novembre. Et on voit que ça marche bien cette fête-là et ça annonce un petit peu l'arrivée de Noël également. Donc c'est assez sympa de se retrouver à ce moment-là.
Ce sont des parrainages prestigieux. Ça peut être ça qui font monter en gamme cette fête qui effectivement annonce la période hivernale.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie et je vais redonner la parole à monsieur Alain Alberti qui va nous parler des ressources humaines et plus particulièrement des fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale.
Merci monsieur le maire. Alors ce fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale, établissement public administratif est chargé de mettre en œuvre une politique publique destinée à promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce fonds finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Suite à l'avis du médecin de la médecine préventive et pour le maintien dans son emploi, un agent municipal doit renouveler son équipement d'appareil auditif. Le montant retenu du devis était de 3 699 euros. À ce jour, le montant de la facture s'élève à 3 200 euros. Après déduction des différents remboursements, régime obligatoire, régime complémentaire et autres, obtenus par l'agent pour s'équiper, il reste à la charge de celui-ci la somme de 1 181,16 €. La commune a déposé une demande d'aide auprès de ce fonds d'insertion le 27 février 2024. Ce même fonds ne peut verser la compensation qu'à la collectivité qui devra reverser à l'agent cette somme. Le conseil municipal doit donc accepter de procéder à ce reversement à l'agent qui aurait dû faire l'avance des sommes restantes à charge. Vu la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, vu le décret numéro 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et notamment l'article 3 sur les actions pouvant faire l'objet de financement par le fonds, considérant que l'aide attribuée sera versée à la collectivité après réception de la facture acquittée par l'agent. En fait, il s'agit ni plus ni moins que de faire une avance qui nous sera reversée ensuite par ce fonds d'insertion. Voilà, monsieur le maire.
Merci, monsieur Alberti. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Donc, je vais donner la parole à monsieur Christian Lefebvre, qui va nous présenter une première délibération sur l'institution du droit de préemption urbain, DPU, et l'autre délibération, c'est l'institution du droit de préemption renforcée. Je vais les faire d'affilée.
Oui, je vais les faire d'affilée, surtout expliquer l'esprit, à savoir que le fait qu'on ait voté un nouveau PLU, ça fait tomber les pouvoirs que M. le maire avait de préempter. Donc il faut les revoter, tout simplement. Voilà. De manière à... D'ailleurs, c'est ce qui est dit en début, à savoir que la commune du Val, ayant approuvé la révision de son plan local d'urbanisme le 24 juillet 2024, a perdu son droit de préemption urbain lié au PLU précédent, approuvé en 2019. Le droit de préemption est une procédure qui permet à une personne morale de droit public d'acquérir en priorité sur toute ou partie des zones urbaines ou à urbaniser un bien immobilier mis en vente. Dans le cadre du plan PLU, l'urbanisme approuvé le 24 juillet 2024, la commune du Val souhaite instituer à nouveau son droit de préemption urbain sur une disposition en vigueur de l'article L211-1 et de l'article L210-1 du Code de l'urbanisme. Donc je vais un peu vous résumer la page, hein, je vous dis les considérants, ce que j'ai relevé comme étant la chose principale, à savoir que, considérant l'article L211-1 du Code de l'urbanisme, qui précise que les communes doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur toute ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochés. Considérant l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, qui dispose que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis, là aussi à l'article L301. Donc, le conseil municipal décide d'instituer le droit de préemption. Je le répète, hein, c'est quelque chose qui existait déjà dans le précédent PLU. Hein. d'instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs tels qu'ils figurent au plan s'y annexé. Vous aviez un plan qui était annexé au document, approuvé en date du 24 juillet 2024. Donc les zones urbaines UA, UB, UC, UD, UD2, UE, UF, UH, UM, UEQ. Ces zones incluent leurs sous-secteurs. Et viennent se rajouter les zones à urbaniser 1AU. Précise que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire que lorsqu'elle fera l'objet d'un affichage en mairie, d'une mention dans deux journaux officiels diffusés sur le département. Prend acte que, conformément à l'article L2122-23, susvisé, les décisions prises par M. le maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil municipal feront l'objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légale et réglementaire. Et là, il est fait la liste des gens à qui qu'il faudra informer, à savoir M. le préfet, le directeur départemental des finances publiques, le président du conseil supérieur notarial, la chambre départementale des notaires, le barreau constitué près du tribunal de grande instance et le greffe du même tribunal. Ça, c'est la résolution numéro 12. Je fais dans la foulée l'autre.
Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on fasse, on les vote les deux? Oui.
Ensuite, donc là, maintenant, c'est l'institution de droit de préemption qui existait aussi déjà, le droit de préemption renforcé qui existait dans le précédent PLU et qu'il faut revoter. Je ne vais pas vous relire tous les considérants. J'ai fait un peu la synthèse de ce qui était écrit. Hein. Vous en avez de toute façon l'explication de tout le texte. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. L'approbation de la révision du plan local d'urbanisme du 24 juillet 2024 nécessite de délibérer à nouveau sur le droit de préemption urbain. Conformément à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme, la commune du Val souhaite ainsi instituer un droit de préemption renforcé sur l'ensemble de la zone située à l'intérieur du périmètre défini sur la carte du PLU s'y annexé, vous l'avez eu, en agissant directement sur le cadre de vie des habitants. La municipalité disposera d'un pouvoir d'intervention direct sur l'offre de logements et de commerces en centre-village et ses alentours selon le plan s'y annexé. Afin de lutter contre l'habitat dégradé et ou indigne, souvent lié, en outre à la division à la division en copropriété, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le droit de préemption urbain renforcé dans son périmètre délimité s'y annexé. Ce droit permettra de contribuer pour la commune du Val au renforcement de la diversité et de la mixité du parc de logements en garantissant une offre variée répondant aux attentes de la population actuelle et future. Alors ensuite, j'ai perdu mes petits là. Excusez-moi, 18, 19, 20, 21. Donc, considérant qu'il est nécessaire que la commune du Val puisse poursuivre en vertu des dispositions de code de l'urbanisme ses actions ou opérations d'aménagement, en instaurant le droit de préemption urbain renforcé, considérant que le droit de préemption simple n'est pas suffisant, le précédent que je vous ai lu, pour préempter les lots de copropriété, les immeubles construits depuis moins de 4 ans, ainsi que pour intervenir sur les cessions de parts ou d'actions de société, considérant que l'instauration du droit de préemption urbain renforcé permettrait ainsi de mener des actions ou opérations d'aménagement pour entre autres, la mise en œuvre de projets urbains, d'une politique locale de l'habitat et de lutte contre l'insalubrité, la réalisation d'équipements et d'aménagements collectifs publics et d'intérêt public, la restructuration urbaine, l'organisation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, le maintien et le renforcement du tissu commercial et artisanal dans le centre-village et ses alentours proches, la sauvegarde ou la mise en valeur de patrimoine bâti ou non bâti. Considérant que l'institution d'un droit de préemption urbain renforcé tel que défini à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme permettra à la commune du Val de mener à bien une politique d'aménagement et de gestion de l'espace ainsi définie en considération de l'intérêt général de ses habitants. Considérant qu'il est ainsi demandé au conseil municipal d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs du territoire communal s'y annexé, décide d'instituer un droit de préemption urbain renforcé selon l'article 211-4 du Code de l'urbanisme, conformément au périmètre du plan annexé à la présente délibération. Là, il me manque un mot. Je passe 21, j'ai un souci. 18, 19. Allez, j'aurais dû les agrafer avant. Le droit de préemption urbain renforcé fera l'objet des mesures de publicité suivantes. Affichage de la présente délibération en mairie pendant un mois. Et après, il y a toutes les mentions légales, hein, d'affichage dans les journaux, le fait d'informer M. le préfet. Voilà. Et puis toutes les instances que je vous ai lues à peine sur le précédent, hein, à savoir le département, M. le directeur du département des finances publiques, le président du Conseil supérieur notariat, c'est les mêmes personnes à qui on donne l'information.
Merci Christian pour la présentation de ces deux délibérations. Donc, juste pour rappel, ce droit de préemption, on s'en est déjà saisi à plusieurs reprises. Il est fondamental pour une commune. Si on a acheté par exemple le local, le studio qui aujourd'hui accueille la savonnerie par exemple, la maison Marigny avec le jardin qui nous a permis de réaliser le square. Je pense également à la partie qui va nous permettre de faire le cimetière. Pareil, c'était une préemption aussi. Donc voilà, c'est quand même un droit qui est important dans la stratégie si on veut mener une politique de revitalisation, de redynamisation, d'aménagement. Évidemment, on a tout intérêt de s'en saisir. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser à outrance également. Ça va dépendre aussi des stratégies. Et chaque fois qu'on préempte, il faut qu'on justifie pourquoi on le fait, quel est le projet concret. On ne peut pas préempter un terrain ou une maison en n'ayant pas de projet. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté derrière. Sinon, le but n'est pas d'embêter les vendeurs dans leurs projets qu'ils ont de devant, tous les acquéreurs qui pourraient viser ce type de projet-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux droits de préemption ? Donc je propose qu'on vote à la fois la délibération sur le droit de préemption renforcé et le droit de préemption urbain. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Les délibérations, l'ordre du jour est épuisé. Comme à l'habitude, je me dois de vous lire la liste des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la période du 25 juillet 2024 au 27 septembre 2024. Donc, il y a l'octroi 3 d'une concession cimetière pour la famille Marcy, l'avenant numéro 2 pour les assurances du personnel à Réliens et l'adhésion au réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Est-ce qu'il y a des... Il est 19h45, donc je clôture la séance du conseil municipal.